Kigali, capitale du Rwanda, Kigali, capitale de la machette. Dans les rues, dans les faubourgs, les jeunes sont en bande avec à la main ces petites haches, ces machettes. Et par terre, en voyant les cadavres, on comprend qu'ils savent s'en servir. La plupart des corps qui sont ramassés dans les camions poubelles sont atrocement mutilés. Au bord de la route, on voit des hommes et des femmes de tout âge presque coupés en morceaux à coups de machette. Kigali, Nicolas Poincaré, France Inter.
Quand en avril 1994, le reporter de France Inter arrive à Kigali, il tente de trouver les mots pour entrevoir l'indicible. Ce mot-là s'impose vite, c'est un génocide, celui des Tutsis du Rwanda. Dans ce pays enclavé de l'Afrique de l'Est, entre 800 000 et 1 million de personnes sont assassinées en 3 mois par des tueurs Hutus. C'est l'attentat contre le président Habyarimana qui signe le début du génocide, mais en réalité, la haine contre les Tutsis était depuis longtemps orchestrée. Elle a été ensuite alimentée et diffusée notamment par des médias nationaux.
Autour de Pâques et dans les jours qui suivent, quelque chose va se passer à Kigali. Ce sera probablement autour du 7 avril. Alors vous entendrez le bruit des balles, vous entendrez exploser des grenades. J'espère que les forces armées rwandaises sont prêtes, parce que les vautours pourront se régaler.
25 ans plus tard, la mémoire collective rwandaise est partagée entre le souvenir et l'avenir. Le pays des mille collines se voit aujourd'hui en référence africaine du numérique. Les investissements dans les nouvelles technologies, dans la communication, sont massifs. Avec ses 12 millions d'habitants, le Rwanda a même créé sa Silicon Valley.
Pour ouvrir une compagnie au Rwanda, ça prend 6 heures. C'est gratuit. Ils ont mis en place les politiques qui facilitent investissement et d'autres avantages.
L'avenir rwandais se construit donc dans la modernité. Sa mémoire se consolide, elle, dans le souvenir. Le reportage de Jérôme Val et de Fabien Gosset a été une première fois diffusé en avril dernier. C'était au moment des commémorations des 25 ans du génocide. C'est donc au mémorial de Kigali que commence leur reportage aux côtés d'un survivant.
France Inter, Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
C'est une pièce avec les photos des victimes. Des visages fixés pour l'éternité dans ce lieu de mémoire.
Je connais beaucoup de choses.
C'était quoi des amis,
des amis, des collègues de classe. C'était une voisine directe. C'était sa fille.
Ça, c'est votre famille?
Oui. C'est moi qui ai amené cette photo. Ce sont mes parents arrivés. C'était mon grand frère qui venait juste devant moi. Ce sont les deux petits frères.
Ça, c'est des photos que les gens amènent, du coup?
Oui, ça, c'est moi qui ai amené ça. C'était l'anniversaire de 25 ans de mariage de mes parents. On a pris une photo, c'était comme ça. Et moi, j'étais ici. Mes deux sœurs étaient ici. J'ai découpé. Ceux qui sont restés au milieu étaient tous morts. Bon, les quatre sont morts ensemble dans la maison familiale. Bon, ils ont été tués le 13 avril. Et ils sont enfuis. Et après, ils ont fini par revenir à la maison parce qu'on ne pouvait pas se cacher. Mais bon. Ils sont rentrés, ils ont été tués le 24. Mon grand frère était tué le 12. Qui touche ici beaucoup, l'endroit où il y a des enfants. Juste des représentants des victimes des enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été tués. Trop plein de gens résistent à regarder ces photos. Un pays passé.
Dans cette pièce exiguë aux murs orangés, impossible de soutenir, sans flancher, le regard de ces très jeunes victimes de la barbarie. Fidel, Chanel et tant d'autres, des enfants massacrés de la plus abjecte des manières. Ah, yeah, yeah. 25 ans après, le Rwanda tente de surmonter ce traumatisme. Et en découvrant ce pays, on y trouve même une certaine normalité, une grande sérénité, comme si personne ne voulait s'appesantir sur ce passé. Mais à chaque commémoration, les souvenirs douloureux sont ravivés, comme au mémorial de Kigali, un bâtiment inauguré en 2004 et installé à flanc de colline. C'est ici que reposent les restes de 250 000 victimes.
Bonjour Toussaint.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien.
Nous retrouvons Toussaint Nossissi, loin de la capitale. Nous sommes à Karongi, une ville balnéaire de l'ouest du pays, à 150 km de Kigali. Ce quinquagénaire travaille dans l'exportation du thé, l'une des fiertés de l'agriculture rwandaise.
Quand j'ai décidé de commencer, je n'étais pas dans le pays. Je faisais mes études au Burundi. Je suis rentré au Rwanda au mois de juin 1994. C'était juste deux ou trois semaines avant la fin du génocide.
Et à ce moment-là, vous saviez déjà que vous aviez des victimes dans votre famille ou pas ?
Depuis plus de 2 mois. Je savais que la plupart de ma famille était tuée. C'est-à-dire, trop dire, c'est pas facile à évoquer. Vous imaginez ce qui s'est passé. Quand je suis rentré, la majorité était tuée. C'est pas la folie, c'était autre chose. On ne s'est pas qualifié.
Au bord du lac Kivu, la ville de Karongi, autrefois appelée Kibuye. C'est dans cette église qu'a eu lieu l'un des pires massacres du génocide. Plusieurs milliers de morts en une journée.
Notre chef nous a dit tuer tous les cafards, c'est-à-dire tous les Tutsis. Prenez vos machettes, vos armes, tout ce que vous avez. Et aller chercher, trouver et tuer les Tutsis.
Mon grand frère, celui qui venait directement devant moi, il avait un an de plus que moi, a été tué à Karongi, ici même, à quelques mètres d'ici. Il travaillait pour une société suisse comme économiste de la société. Il a été tué le 12 ou le 13 avril 1994. Il est parmi les premières personnes qui ont été tuées dans cette ville. C'est ça pour moi, Karongi. Personnellement, je me dis que j'ai pardonné. Mais je ne peux pas oublier.
On peut pardonner alors qu'il y a des bourreaux qui sont encore en vie, qui sont peut-être pas très loin d'ici. On peut quand même pardonner.
Pour les victimes du génocide, je crois que le pardon, c'est ce qui nous fait vivre, continuer à vivre. Les bourreaux, on sait qu'il y en a partout dans le monde, dans le pays. On aimerait bien toujours qu'ils aient le sort qu'ils méritent. Mais dans le pays, ça fait beaucoup d'années qu'on voudrait bien vivre le pardon pour continuer à vivre. Pour aussi aider nos descendants qui ne devraient pas souffrir ce qu'on a vécu.
Vous avez des enfants ?
J'ai 3 enfants et 1 femme.
Et qu'est-ce que vous leur dites à vos enfants ?
On essaie de les raconter ce qui s'est passé. Mais apparemment, ils n'y comprennent rien. Et c'est bon pour nous. Parce que on n'a pas l'impression qu'ils vivent le génocide. Et on n'aimerait pas bien qu'ils le vivent. Ils vivent bien, ils sont bien. Et puis, bon, on a la chance d'avoir un environnement qui ne favorise pas ça. Un environnement qui essaie de montrer autre chose. Un environnement qui essaie d'unir les gens, d'oublier un peu, qui favorise la réconciliation entre les gens.
Au lendemain du génocide, le pays est en lambeaux. Toute l'économie est à rebâtir et les priorités à l'époque sont la gestion des réfugiés, environ 2 millions de personnes, et la réconciliation d'un peuple déchiré. Mais au tournant des années 2000, le gouvernement fait alors un choix radical, le pari des nouvelles technologies. Une révolution numérique qui touche tous les secteurs de la vie quotidienne et qui aujourd'hui fait figure de modèle pour le continent africain.
Le climat pour l'investissement est propice au Rwanda. Prenons l'exemple de la société SafeMoto, en résumé le Uber africain des mototaxis, bien plus populaire en Afrique que les voitures. À l'origine de ce concept innovant, un Canadien et un Kenyan, ils ont choisi d'investir non pas dans leur pays, mais au Rwanda. Et nous allons comprendre que ce n'est pas une exception dans la suite du reportage de Jérôme Val.
Good morning. My name is Eric Joseph.
Je m'appelle Eric Joseph.
And I currently work here to run the program of driver financial services.
Je suis chargé du secteur financier et du recrutement des chauffeurs chez SafeMoto.
SafeMoto a été créé il y a 5 ans ici à Kigali. SafeMoto n'est possible que parce que ici à Kigali, beaucoup de gens sont équipés de smartphones. C'est pour ça que cette aventure a démarré ici au Rwanda, parce que les nouvelles technologies sont plus implantées peut-être qu'ailleurs en Afrique.
C'est vrai qu'ici au Rwanda, l'environnement est favorable aux nouvelles technologies et à leur développement. Nous voulions d'abord tester notre concept ici sur le marché rwandais. Et la leçon que l'on retient, c'est que l'on peut l'exporter ailleurs. Le gouvernement, les institutions en général, encouragent, incitent beaucoup dès qu'il est question de technologie. Donc le Rwanda était pour nous un test grandeur nature. Et maintenant, nous sommes prêts à nous implanter dans plusieurs villes dans le monde. Une de nos équipes travaille actuellement à Kinshasa, au Congo. C'est plus facile de se rôder au Rwanda que partout ailleurs en Afrique.
Donc SafeMoto, à l'application.
Voici donc notre application. Et quand on l'ouvre, on peut voir où l'on se trouve. Et avec ce gros bouton, vous pouvez voir où se situe votre position actuelle. Et là, nous sommes dans les locaux de SafeMoto. Vous voyez, il y a un chauffeur qui est tout près. Il s'appelle Wagazé Emmanuel.
Donc notre futur pilote s'appelle Emmanuel et il a déjà fait depuis son arrivée à SafeMoto 2969 trajets. Donc Kigali, il arrive dans 6 minutes. Bonjour, Jérôme.
Emmanuel.
Ah, ok. Parfait, nous voilà arrivés. On enlève
le casque.
How much?
Combien?
400.
400 francs rwandais. Une course pour 40 centimes d'euros.
Merci.
Comment on dit au revoir?
Bolavejo.
Interception sur France Inter.
Nous sommes arrivés au Kelab. Kelab comme Knowledge Laboratory, le laboratoire du savoir. C'est une sorte d'incubateur de start-up ici à Kigali, un local où les jeunes geeks qui ont une idée peuvent venir bénéficier de matériel, des ordinateurs, des imprimantes 3D pour concrétiser leur idée et en faire peut-être à l'avenir une start-up. Nous sommes à la House Telecom et nous allons grimper au 6e étage, je crois, pour aller voir les responsables de ce Kelab qui fait figure là aussi de pionnier en Afrique.
Hi, Jérôme, how are you?
Fine, and you? Vous allez bien?
Très bien, merci. Et toi, bon,
ça va très bien.
En fait, à cause de l'anglais, on se tutoie facilement.
Il n'y a pas de souci.
Vous allez bien?
Très bien.
Oh, je viens.
Ouais.
Alors,
Mon nom est Afkodis Mutangana et je suis directeur de K-Lab. K-Lab est un espace d'innovation, là on aide les jeunes à concrétiser leurs idées. On offre espace, mentorat et internet. Et on est ouvert 24 heures, on ne ferme pas. K-Lab a commencé il y a 7 ans. Depuis qu'on a commencé, on a plus de 2000 membres, plus de 200 compagnies. Et puis on a plusieurs programmes pour accompagner nos jeunes. Par exemple, pour préparer la future génération, ce qu'on fait, on est en train d'enseigner les enfants, 6 à 8 ans, on les enseigne juste un petit programme qu'ils appellent Scratch. C'est pour leur familiariser avec l'ordinateur. À partir de 9 à 15 ans, on les enseigne HTML, CSS, JavaScript, Java, Python et PHP. Mais d'une façon simple. Et les enfants de 16 ans à 18 ans, on les enseigne la même chose, mais on approfondit un peu. Donc, tu vois, c'est pour préparer cette génération de développeurs.
Aujourd'hui, le Rwanda mise beaucoup sur ces nouvelles technologies. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile de créer une start-up ?
Oui, pour ouvrir une compagnie au Rwanda, ça prend 6 heures. C'est gratuit, c'est en ligne. Ils ont mis en place les politiques qui facilitent investissement et d'autres avantages.
C'est l'avenir du Rwanda, justement, ces petites entreprises, ces bonnes idées qui arrivent à émerger ?
Oui, un grand oui. Pourquoi ? Parce que ils vont créer des emplois, créés par le jeune, ok ? Ils vont payer les taxes pour construire le pays. C'est l'avenir. Ici, il y a des compagnies qui sont en train de travailler sur le projet.
Donc là, okay. Nous allons en face à Fab Lab. Et là, il faut empreinte digitale. Hein. Très moderne.
En fait, la différence entre K-Lab et Fab Lab est que K-Lab, c'est plus software, là où tu fais les codes. Ici, c'est quelque chose de concret, tangible.
Donc, on a l'idée d'un côté et on peut la mettre en œuvre juste en traversant un couloir.
Exactement, c'est comme ça qu'on travaille.
Bonjour.
Bonjour.
Il s'appelle
Fidens.
Jérôme.
Jérôme, enchanté. Jérôme, de où ?
De Paris.
De Paris, d'accord.
Aujourd'hui, au Rwanda, il est possible de commander des fruits et légumes en ligne sur le même principe que les paniers paysans en France, un modèle développé au K-Lab par un jeune entrepreneur.
Je m'appelle Second Fidens Iragena. J'ai 35 ans. J'ai un master en e-business, management des organisations de la net économie de l'université de Picardie, Jules Verne. Et je suis rentré à Kigali en 2013. Depuis le mois de juillet 2018, j'ai commencé une marque qui s'appelle Park & Pick. C'est de la livraison, de la distribution des fruits et légumes dans des centres urbains. Et on a 100 clients pour l'instant, en 5-6 mois d'opération.
Cette idée, est-ce que vous auriez pu la concrétiser sans venir ici au K-Lab ?
J'ai pensé à ça depuis que j'ai 15 ans. Je sortais de chez moi, je partais au marché, j'ai vu une demoiselle du même âge que moi qui a failli se faire écraser par une voiture. Elle a pendu toutes ses tomates par terre. Et puis ça continue à trotter dans ma tête. Si ses parents avaient eu la même chance d'aller à l'école qu'elle est mienne, ça aurait été elle à ma place et moi à la sienne. Donc mon rôle aujourd'hui, c'est de comprendre les principes autour de la distribution de ces tomates qui font que certaines personnes risquent leur vie et moi, je suis là en train de me balader. Cette idée, la concrétiser sans le support, sans le soutien, sans un écosystème quelconque d'accompagnement, c'est difficile. On n'a pas tous les outils. On a beau avoir ses envies, et l'envie d'en découdre, cette passion pour le secteur, mais il nous manque quand même quelques clés en main. Il faut venir dans un incubateur comme K-Lab, où on a des rêveurs comme nous, qui sont accompagnés, qui arrivent à faire des choses.
Ce n'était pas un pari gagné pourtant, parce qu'on connaît l'histoire de ce pays. Il y a 25 ans, ce pays était dans le chaos. 25 ans plus tard, vous êtes quand même moteur d'une certaine économie, du numérique, des nouvelles technologies. Mm-hmm. C'est un miracle ? Enfin, comment vous voyez un peu les choses, vous ?
On sait de quoi on est capable, que quand on a été au fond, on est obligé de trouver des ressources qui nous permettent de survivre. Ce n'était pas gagné. Il y a 25 ans, on a eu le pire, je pense, des génocides. Et puis, malgré tout ça, au-delà du génocide, il faut bien qu'une société se construise, qu'il ait d'autres référents culturel qui est juste le deuil. On a mobilisé ces ressources qu'on avait pour pouvoir ne pas être laissé pour compte de l'économie mondiale. Donc on se dit que le Rwanda, n'a pas loupé le quoi de s'arriver sur le train mondial pour pouvoir bénéficier éventuellement des retombées de l'économie internationale et des intégrations économiques. Oui.
Merci beaucoup.
De rien.
Et bonne chance pour la suite de votre...
Merci d'être passé et à très bientôt peut-être sur les ondes de la radio. Vous avez une carte de visite ?
Bonjour. Je voudrais acheter une carte pour prendre le bus.
C'est une carte
prépayée. Comme ça, on n'a plus d'argent à donner dans le bus. C'est l'une des grandes innovations du transport en commun dans cette ville de Kigali depuis le début des années 2010.
Voilà le bus. Le bus 101.
Va à Katoubé.
Down.
Et le but de cette informatisation du système de paiement, c'est aussi d'éviter les transactions financières, monétaires dans le bus, et donc d'éviter de trop gros retards quand ça prenait du temps d'échanger la monnaie. Ce qui fait du réseau de transport urbain de Kigali l'un des moins en retard en Afrique.
Voici rendu devant un grand portail vert au numéro 5 de la KG 622 Street. La numérotation des rues à Kigali est codifiée avec des chiffres et des lettres. Sur la porte, Kasha est écrit en gros, Kasha, du nom d'une plateforme de vente en ligne de produits pharmaceutiques et de beauté à destination des femmes.
Bonjour, bienvenue.
Merci de nous accueillir à Kasha.
Avec plaisir, tout l'honneur est pour nous.
Moi, je m'appelle Tania Feroz. Et je suis devenue Healthcare Operation Manager. Donc, je suis en charge des opérations du département pharmaceutique et de la santé de Kasha. Kasha, c'est une entreprise, c'est une start-up dont on entend parler un peu partout au Rwanda et qui est surtout entre femmes parce que ça nous permet de faire des commandes en ligne de produits de santé, de beauté et de manière confidentielle.
Avant la création de cette plateforme, c'était compliqué pour une femme ici au Rwanda d'aller acheter ses produits, d'en parler. Est-ce que c'était un peu tabou ?
Je ne pense pas que c'était compliqué d'en parler, mais je pense que d'un point de vue culturel, en fait, y a une grande pudeur. Tout ce qui touche à la sexualité n'est pas quelque chose dont on parle de manière très libre. Donc aller à la pharmacie pour aller acheter des produits contraceptifs, par exemple, c'était des choses qui étaient très difficiles pour les femmes, ce qui entraînait des grossesses indésirables, une mortalité infantile élevée. Je pense pas que culturellement ça change, que les gens sont beaucoup plus libres de parler de leur sexualité ou des produits pharmaceutiques qu'ils ont achetés. Mais clairement, ça rend les choses, enfin, en tout cas, certains produits plus accessibles aux femmes. À Kigali, c'est juste une question d'accessibilité et de confidentialité. Dans les milieux ruraux, c'est au-delà de ça. Ça a un impact sur les grossesses, ça a un impact sur les adolescents, et leur libre arbitre par rapport à leur corps, surtout chez les femmes. Et ça permet un peu donc, de déstigmatiser, en fait, tout ce stress autour de la sexualité qu'il y a ici.
Nous sommes dans votre local ici à Kigali. Il y a une petite pièce où il y a des produits. On peut aller les voir,
bien
ces
sûr.
Produits.
Par rapport aux produits, par exemple, qui fonctionnent bien, donc nos tops dans les ventes d'un point de vue pharmaceutique, on a bien évidemment le préservatif, mais on a aussi donc, les kits que l'on peut tester soi-même à la maison. Donc il y a le kit pour le HIV, donc le sida, mais il y a aussi celui de la malaria.
Et donc on a les résultats soi-même sans aller forcément devant un médecin.
Exactement. Déjà, il y a un problème au niveau du fait qu'on ne sait pas très bien quel médecin aller voir, rien qu'en tant que femme par rapport au gynécologue, etc., ou pour tester aussi toutes les maladies qui sont sexuellement transmissibles. Il y a une honte derrière le fait d'aller faire un test de sang pour checker si vous avez le sida ou pas. Donc à partir du moment où on le fait à la maison, mais peut-être qu'on peut digérer, je dirais, la nouvelle tout seul ou pas, et après se suivre. Parce que je connais pas quelqu'un qui va voir qu'il a le sida et puis qui va s'asseoir chez lui sans rien faire.
Hi.
Hi. Jerome?
Are you Diane?
Yes.
How are you?
Fine, thank you. How are you?
Fine.
Diane Dusaidi est la responsable de CACHA pour le Rwanda.
Nous sommes très déterminés à fournir un accès à toutes les femmes du Rwanda. Pas seulement celles à fort revenu, les classes moyennes et les plus riches, mais qu'importe le statut économique et social, qu'elles soient toutes en mesure de se procurer les produits d'usage quotidien.
Et combien vous avez de clients aujourd'hui ?
So we have about 35,000 customers to date. 35,000. Yes.
Et tout ça aujourd'hui, c'est possible parce que Internet se développe dans tout le pays. Vous avez l'impression que aujourd'hui, cette révolution est en marche parce que c'est possible grâce à Internet.
Yes, it is, but
oui, ça l'est. Mais heureusement pour nous, nous avons révolutionné le mot commerce électronique pour l'adapter à notre marché. Nous avons un site internet et on a aussi l'application parce que c'est plus populaire sur ce marché. Nous sommes en train de développer la version pour iPhone, mais on a aussi la technologie USSD. C'est pour les téléphones les plus basiques, ceux qui n'ont pas internet, c'est-à-dire la majorité du marché de masse. Donc ça marche comme ça, un code court genre étoile 911 hashtag. Ensuite, tu peux choisir la langue, puis la section. 1, savon, 2, lotion, 3, produits pharmaceutiques, 4, intimité féminine. Et ensuite, tu payes avec le mobile. Le paiement mobile et l'USSD sont très intégrés dans notre plateforme technologique. Parce qu'on veut être disponible pour toutes les femmes, vraiment toutes, pas seulement certains segments de la population. Tout le monde n'a pas de smartphone. C'est très limité le nombre de personnes qui ont Internet. Et une connexion rapide, c'est encore plus restreint. Donc pour nous, c'est important d'avoir toutes les options, comme on a toutes les options pour nos produits.
On peut imaginer qu'une femme dans un petit village très reculé peut commander des produits même si elle n'a pas Internet.
Oui, absolument. Les femmes jeunes ou les plus âgées ont accès à cette technologie USSD. Ces petits téléphones simples sont très abordables. Et donc, si une personne en particulier n'a pas de téléphone, il est très improbable que toute la famille n'ait pas de téléphone. Ils peuvent facilement le partager parce que la transaction est toujours confidentielle. Les données sont liées au numéro de téléphone, mais ensuite, tout se fait avec votre nom.
Ce tournant numérique a valu au Rwanda de collectionner les surnoms. Le petit Singapour, la Suisse de l'Afrique, il suffit de se référer à sa croissance annuelle, plus de 7% depuis près de 20 ans consécutifs. Tout en restant, et ça c'est un paradoxe, le 17e pays le plus pauvre de la planète. Alors, mirage ou miracle, Jérôme Val a posé la question à Anne Ansoms. Elle est professeure à l'Université catholique de Louvain, en Belgique, et spécialiste des populations paysannes rwandaises.
France Inter, Interception.
Ben d'un côté, je pense effectivement qu'on peut parler d'un miracle sur le plan macroéconomique. C'est très clair que les chiffres de croissance sont très élevés. C'est vrai aussi qu'il y a toute une série de développements autres que la croissance économique. Par exemple, on voit qu'au niveau des infrastructures, il y a réellement des développements très spectaculaires, surtout en ville, mais aussi au niveau des routes menant vers les différents coins du pays. Et aussi dans le secteur de santé, il y a eu des vraies améliorations, par exemple dans la construction de centres de santé, leur équipement, et aussi le staff qui est certainement bien éduqué. Donc ça, c'est vraiment des accomplissements réels qui sont là. En même temps, il y a un envers du décor. Et moi-même, je me suis beaucoup concentrée sur l'impact de la modernisation agraire sur les paysans, les différentes catégories de paysans. Les tailles moyennes que les paysans occupent sont très petites. Et donc, ça implique qu'il y a toute une série de défis auxquels ces paysans doivent faire face, déjà dans les conditions normales, le changement climatique qui leur affecte, des conditions agroécologiques qui changent tout le temps. Mais en même temps aussi, cette implémentation d'une politique agraire orientée vers la modernisation qui a permis à une partie des paysans de profiter, mais qui a aussi eu des effets plutôt difficiles pour pas mal d'autres paysans.
Le président Paul Kagame veut faire de son pays un pays à revenus intermédiaires dans les prochaines années. Le Rwanda reste malgré tout l'un des 20 pays les plus pauvres du monde. Est-ce que c'est un objectif réaliste de sortir ce pays, ce petit pays enclavé de la pauvreté ?
Ben, d'un côté, on voit effectivement que le développement économique au Rwanda est là. Et donc, ça a certainement des impacts sur le terrain. De l'autre côté, il faut se poser à quel point que cette croissance économique qu'on observe est répartie relativement équitablement au niveau de la population. Et là, je pense qu'il y a des réels soucis. On voit qu'il y a un développement, mais un développement qui revient à une partie, une proportion de la population, les classes déjà mieux placées. Tandis que pour les paysans, surtout les paysans opérant à petite échelle, ce n'est pas du tout évident de profiter de la croissance économique qu'on est en train de voir. Donc je ne suis pas sûre qu'avec le modèle actuel, on va arriver à pouvoir diminuer la pauvreté de façon substantive, à moyen ou à plus long terme.
C'est-à-dire que faire des nouvelles technologies, de la numérisation une priorité, faire du tourisme haut de gamme une priorité, ça ne profitera qu'à une minorité ?
Oui, effectivement. Et je pense que le gouvernement, d'ailleurs, en est au courant. On voyait que surtout dans les années 2000, la vision économique au Rwanda était fort orientée vers l'informatisation. On a fait des vrais pas en avant là-dedans. Mais on a vu que voilà, si on veut vraiment réellement faire profiter aux populations les bénéfices de la croissance économique, il faut davantage investir dans le secteur agraire, le secteur qui occupe encore toujours 80% de la population. Et donc, c'est dans ce secteur-là qu'on a commencé à investir. Et par rapport à ces politiques-là, je suis beaucoup plus critique parce que je pense que la piste qu'on a prise, c'est de viser une productivité maximale, une croissance maximale, mais avec trop peu d'attention vers les défis complexes pour les paysans opérant à petite échelle au Rwanda.
Bonjour Abdoul.
Bonjour.
Ça va ?
Oui, ça va.
Abdoul, c'est notre chauffeur ici au Rwanda. C'est lui qui nous conduit partout sur des routes, il faut le dire, impeccables. C'est ce qui saute aux yeux, c'est vraiment des routes hyper bien entretenues. Bonjour. Il faut faire attention parce qu'il y a quand même pas mal de circulation, les voitures, les mototaxis, les vélos, beaucoup de vélos ici.
Nous sommes arrivés à Rubavu, une ville du nord-ouest du Rwanda. Rubavu, l'ancienne Gisenyi. Car au Rwanda, toutes les villes, à l'exception de la capitale Kigali, ont changé de nom, une volonté du président Paul Kagame, une façon, dit-il, d'effacer un héritage colonial et un passé trop douloureux. Butare est devenu Ouye, Rwenyeri s'appelle maintenant Musanze, au pied des volcans, et Gisenyi a donc été renommé Rubavu. Ce que vous entendez, c'est le Kinyarwanda, langue parlée par plus de 99% des Rwandais. Depuis 2003 et la nouvelle constitution, c'est la langue nationale. La constitution reconnaît aussi le Swahili, le français et l'anglais comme langues officielles. Mais dans les faits, depuis le génocide de 1994, le paysage linguistique du Rwanda a été bouleversé et c'est le français qui en a fait les frais.
Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ?
On travaille.
Vous travaillez sur quoi ?
On apprend à mélanger les couleurs. Je m'appelle Alana et j'ai 6 ans.
Vous savez lire la phrase qu'a écrite la maîtresse ?
Oui.
C'est quoi la phrase ?
Justine et Lucas s'habillent.
Justine et Lucas s'habillent.
Est-ce que vous êtes content d'étudier en français ?
Oui.
Quel est votre mot préféré en français ? Quelqu'un peut me dire un mot qu'il aime bien en français ? Oui, Daniel.
Anticonstitutionnellement.
Pourquoi tu aimes ce mot ?
Je pense qu'il est long.
C'est le plus long.
C'est le plus long.
Merci beaucoup en tout cas les enfants. À bientôt.
La semaine dernière, toute l'école de Tom s'est rendue à Bruxelles pendant 4 jours.
Aujourd'hui, le Rwanda ne compte plus que 6% de francophones, selon les dernières statistiques de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors si un élève rwandais veut apprendre en français, il n'a pas le choix, il doit s'inscrire dans une école privée, comme ici à Rubavu, à l'école Isoko, dirigée par Jean de Dieu Niyomugabo, son directeur, et Evelina Merlot, la présidente du comité exécutif.
Isoko signifie la source, une source savoir.
En quelle langue ?
En Kinyarwanda, c'est un mot Kinyarwanda qui signifie la source en français.
Vous, vous avez, j'imagine, étudié plus jeune en français ?
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que vous avez ressenti ces dernières années quand il y a eu la volonté du gouvernement de ne plus mettre le français en avant, de ne plus l'étudier, de ne plus l'enseigner dans des écoles primaires ? Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, en tant que francophone ?
En fait, quand ça a changé, moi j'étais prof à l'école internationale des parents de Boutaré. Je pensais que j'allais perdre mon boulot. Après, on a eu la possibilité de continuer. Ce qu'on a fait, on a fait 3 ans en français, donc de première jusqu'en troisième, et puis on enseignait en anglais, de quatrième à la sixième. Ce que j'ai ressenti, alors, je trouve que ça a été brusque. C'était peut-être une bonne politique, initiative, mais la façon dont ça a été mis en place, je trouve pas très bien. C'était au début de l'année scolaire, ils ont dit, on va changer, la langue d'enseignement va être en anglais à la place du français.
Aujourd'hui, on a l'impression que le français revient un petit peu. C'est aussi votre sentiment ? Vous êtes optimiste pour l'avenir et pour l'avenir du français ici au Rwanda ?
C'est vrai, le français revient petit à petit. Par exemple, au début de cette année scolaire, ils ont commencé à mettre plus d'heures de français.
6 heures de français
par
semaine.
Oui, 6 heures de français. Et maintenant, le français aussi va être évalué à la fin de chaque cycle. Donc, des cycles primaires, secondaires.
Donc, vous êtes optimiste ?
Je suis vraiment optimiste.
Evelina Merlot, c'est aussi votre sentiment en tant que francophone de vous dire que ce n'est plus une hérésie de parler français ici au Rwanda.
Oui, je dois dire que ça nous met aussi à l'aise. On avait beaucoup de mal, des fois on arrivait dans les institutions et on refusait de nous répondre si on parlait seulement français. Il était bien sûr d'un bon ton d'avoir l'anglais dans la poche, mais oui, ça nous met beaucoup plus à l'aise maintenant. Ouais.
Alors c'est vrai que depuis quelques mois, il y a une présidente de la francophonie qui est rwandaise, Louise Mushikiwabo, l'ancienne ministre des Affaires étrangères. Ça peut tout changer justement par rapport à l'avenir du français ici ?
Moi je pense que ça devrait changer beaucoup de choses. Oui, oui. Parce que je vois déjà quand même pas mal de gens qui maintenant se ruent devant l'ambassade de France pour demander des fonds, parce qu'ils disent « Ah, ça y est, il y a des nouveaux ». Mais je pense que ça va changer quand même, pas au niveau organisation, au niveau de la structure même, mais au niveau peut-être des relations aussi entre la France et le Rwanda, il y aura peut-être beaucoup plus d'échanges entre les deux pays. Et ce n'est pas une mauvaise chose.
Notre dernière étape nous conduit à Nyamata, une ville du sud du Rwanda qui s'étend sur une quinzaine de collines. En un mois, entre le 11 avril et le 14 mai 1994, 50 000 Tutsis sur une population de 59 000 ont été assassinés. En 3 jours, 5 000 personnes ont été exterminées dans l'église de Nyamata, un édifice de briques transformé en mémorial. On y accède par une petite route d'ocre rouge. À quelques mètres, un nouvel édifice catholique a été construit. Omar Ndizeye a 35 ans. Il nous accueille devant ce mémorial. Il est l'un des responsables de Never Again Rwanda, association qui milite pour la réconciliation et pour la paix.
Ici, on est à Nyamata. C'est le site mémorial des génocides, là où mon père a été tué pendant le génocide et aussi une partie de ma famille.
Le jour où la tuerie a commencé à Nyamata, dans la rue du Grand Marché, nous avons couru jusqu'à l'église de la paroisse. Les Interahamwe sont arrivés en chantant avant midi. Ils ont jeté des grenades, ils ont arraché les grilles, puis ils se sont précipités dans l'église et ils ont commencé à découper des gens avec des machettes et des lances. Ils coupaient sans choisir personne. Les gens qui ne coulaient pas de leur sang coulaient du sang des autres, c'était grand chose. Alors ils se sont mis à mourir sans plus protester. Au cœur de l'après-midi, les Interahamwe ont brûlé des petits enfants devant la porte. Je les ai vus de mes yeux se tordre de brûlures, tout vivants. Il y avait une forte odeur de viande et de pétrole. Extrait de « Dans le nu de la vie » de Jean Hatzfeld.
Omar, vous étiez ici ce 13 avril 1994. Ces images, j'imagine, vous ne pourrez jamais les oublier.
Ah oui, oui. Quand je suis ici, je vois tout ce mélange des cadavres, des vaches et des enfants, et des papas et des mamans, qui, et les grenades, les cris des enfants, des jeunes. Je vois ce que les autres ne voient pas.
Pourtant, Omar, vous acceptez de nous accompagner aujourd'hui, même si c'est douloureux.
Oui. Je trouve toujours que le devoir, c'est témoigner ce qui s'est passé. Ça, le témoigner, ça, l'histoire se passe à l'inconnu. Et c'est comme ça que les négations, la négation du génocide prend la place. Parce que il n'y a pas un génocide sans la négation. L'année passée, j'étais ici, parce qu'on organise toujours la commémoration ici. J'étais ici, j'étais témoin devant le public. Je trouvais ça mon devoir, parce que je sais qu'il y a des autres qui disent autrement, pour les raisons diverses. Non. Mais moi, je parle de mon histoire, je parle de ce que j'ai vécu.
Omar, nous allons passer les grilles de ce mémorial, avec au-dessus un portique où il est inscrit « Nyamata Genocide Memorial », le mémorial du génocide ici à Nyamata.
On est sur l'entrée de l'est de l'église. Les impacts que tu vois ici, sur les toits, les petits trous ici, c'était des grenades. Et dans cette entrée de l'église, il y avait beaucoup de cadavres. Je ne dirais pas des cadavres parce qu'il y avait des parties, des morceaux. Parce que si tu vois, il y avait des grenades qui se sont lancées dans l'église, mais qui s'explosaient devant l'église. Donc il y avait, pour te donner une image, c'était des morceaux. Les taches noires que vous voyez au plafond ou au-dessus, c'est le sang. Le sang de victime.
Moi, je sais que lorsqu'on a vu sa maman être coupée si méchamment et souffrir si lentement, on perd à jamais une partie de sa confiance envers les autres et pas seulement envers les Interahamwe. Je veux dire que la mort de maman m'a le plus attristée, mais que sa trop longue douleur m'a le plus endommagée et que ça ne pourra plus s'arranger.
Omar Ndizeye, vous l'avez dit, vous travaillez pour une association Never Again Rwanda, plus jamais ça, ici au Rwanda. Vous œuvrez pour la réconciliation alors que vous avez vécu l'indicible, vous avez vécu l'horreur. La réconciliation, comment est-ce possible, même 25 ans après?
Ce que Never Again Rwanda a fait, c'est organiser ces dialogues communautaires, organiser les espaces thérapeutiques pour que les gens parlent. Tu peux peut-être te demander pourquoi je me suis investi dans ce travail. Parce que j'ai vécu ce qui s'est passé ici. Je sais que ce que l'homme est capable de faire. J'ai vu les démons dans l'être humain.
Mmh.
Rwanda, du chaos au sursaut. C'était un reportage de Jérôme Val, prise de son Fabien Gosset, réalisation Violaine Ballet, avec l'aide de Stéphane Combe, mixage Jean-Philippe Jeanne. Sur la page de l'émission, vous trouverez également un lien sur les récentes révélations de France Inter quant au rôle trouble de la France dans ce qui fut le dernier génocide du XXe siècle. À la semaine prochaine.